bienvenue à chacune et à chacun. Donc nous allons démarrer notre assemblée générale statutaire et vous êtes bien sûr invités à rester avec nous à la suite de cette assemblée générale statutaire. Nous aurons une table ronde qui vous sera présenté par Annie Boer. Je ne sais pas pourquoi elle est à quatre pattes cachée là-bas, mais bon, c'est pratique.
C'est les TIC qui font ça.
C'est pratique lié aux technologies de l'information et de la communication, puisque ça va être le sujet de la table ronde. Je ne sais pas, ça a l'air un peu contradictoire, ça fait archaïque comme positionnement par rapport à l'image qu'on a des TIC, mais écoute.
Et elles sont deux, hein. Il y a bien une...
Bien, merci à l'espace Mendes France de nous accueillir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous avons reçu pas mal de messages d'excuses et pour certains avec des petits mots très gentils de soutien. Donc j'excuse Julie Géron du Conseil régional. Qui a donné son pouvoir à Laurence Marcillot, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc Evelyne Vidot, représentant le Césaire, s'est également excusée. Patrice Moreau de l'ONF, Alain Gazot d'Atmo, Sébastien Dugleux du Conseil général 79, Philippe Guérin de la Chambre régionale des métiers. Toutes ces personnes ont donné leur pouvoir. Catherine Troma sera représentée par Franck, qui va pas tarder à nous rejoindre. Franck Trousselot, Catherine Troma, présidente de l'ORE. Thierry Clause de l'ONCFS. Gérard Blanchard, président de l'université, mais qui est représenté. Gérard Blanchard, président de l'université de La Rochelle, qui est représenté par Patrice Braconnier.
Non, Patrice, il représente Yves Jean pour La Rochelle.
Eh bien, il ne faut pas m'écrire des choses comme ça. Dominique Ménian est excusé du Zoodyssée. Un président qui respecte ce qui lui est écrit, c'est normal, monsieur le directeur. Vous voyez. Donc, il faut relire ce que vous bidonnez au président. Anne-Emmanuelle Ouvrard de la DREAL. On a aussi les excuses de Madame Bazère, que j'ai reçu un mail hier soir. Geneviève Gaillard, donc Niort, Jean-François Moreau de l'ADEME, Philippe Gourinchat, ville de Cognac, Philippe Laveau, ville d'Angoulême, et l'URCPIE aussi nous a transmis ses excuses. Voilà, il nous revient dans un premier temps de valider, d'approuver le procès verbal de l'AG 2012. Donc normalement chacun d'entre vous et chacune d'entre vous doit avoir le procès verbal, poursuivre cet AG. Vous avez le procès verbal dans vos dossiers de 2012, le rapport moral et le rapport d'activité, le projet d'action 2013 et le rapport financier 2012. Et c'est ce qui va nourrir notre AG statutaire. Donc, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un souhaite faire des remarques sur le procès verbal de l'AG 2012 ? Bonjour Amandine. Et bonjour à l'AREC en même temps. Non, il n'y a pas de... Donc, qui est-ce qui est contre l'approbation du procès verbal ? Qui est-ce qui s'abstient ? Très bien, donc merci. On va passer au rapport moral que vous avez dans le document rapport moral, rapport d'activité. Donc si vous souhaitez, je ne vais pas forcément rendre compte de tout ce qui est dans le rapport moral de manière écrite, et en tout cas pas ligne à ligne, donc... Si vous souhaitez le relire, vous l'aurez sous la main. Donc, bien évidemment, le rapport moral commence par vous souhaiter la bienvenue. Ma première bienvenue était une bienvenue de convivialité. La deuxième est plus institutionnelle, c'est-à-dire que vous êtes bienvenue, puisqu'une AG statutaire, ça a pour mission de rendre des comptes. Et l'IFRE se doit de rendre des comptes sur ses activités et sur la façon dont nous gérons l'argent, très majoritairement de l'argent public, comme nous le verrons. Donc voilà, cette bienvenue institutionnelle est aussi importante que la bienvenue conviviale et le plaisir qu'on a à vous recevoir. Dans le rapport moral, vous pourrez découvrir aussi que je mets en avant la culture du partenariat en Poitou-Charentes. Quand on se promène un petit peu en dehors de la région picto-charentaise, on s'aperçoit que tous les partenariats qui existent, ce que certains appellent les satellites aussi, qui tournent autour des institutions, je vois la REC et l'ORE qui sont là, comme l'IFRE, qui font partie de ce que certains appellent des satellites, ce qui est une belle image en même temps. Donc c'est vrai que ces partenariats sont très très liés à l'histoire du Poitou-Charentes et c'est donc pas un hasard si la présidence de l'IFRE revient au collège des associations, aux membres associatifs du conseil d'administration de l'IFRE. Donc c'est à ce titre-là, du coup, que j'occupe la chaise de président, puisque je représente le GREN au conseil d'administration. C'est à ce titre-là, voilà, que je suis président depuis 4 ans et que donc je vais entamer ma dernière année et que j'arrêterai la présidence en juin 2014. Voilà, 5 ans, c'est un mandat tout à fait raisonnable. Et puis c'est bien de donner de l'oxygène aux structures en changeant les hommes et les femmes. Voilà. En ce qui concerne donc le côté statutaire, moi, je voulais simplement développer 3 points. On pourrait en développer beaucoup plus. Vous les avez ici, on les détaillera tout à l'heure. Pour autant, vous savez ce que sont les engagements qui ont conduit à la création de l'IFRE, cet institut. Il a été voulu par l'État, la région, il a été voulu aussi par les associations. Et donc, quelque part, l'IFRE n'est pas un institut militant. Pour autant, il a en son sein des associations qui le sont militantes. Militantes de l'éducation à l'environnement et au développement durable et qui se battent depuis des années et des années. Donc, je voulais simplement, avant de développer ces points purement statutaires, vous faire état de ce qui s'est passé début 2013, parce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a eu des avancées très importantes sur le champ de l'éducation à l'environnement et au développement durable au niveau national, et avec des retombées qui peuvent être régionales. Alors d'abord, vous signalez le grand succès, je pense qu'on peut le dire comme ça sans en rajouter, des Assises nationales de l'éducation à l'environnement et au développement durable qui ont regroupé, je crois, autour de 1300 personnes. Ce que je retiendrai, en dehors du fait, bien évidemment, que tous ces événements-là sont des moments de mobilisation où on se conforte dans ses convictions, etc., le côté retrouver tous ces gens qui, depuis des années et des années, essayent de faire avancer ces idées. Moi, je voulais insister sur le fait que pour la première fois, c'était donc il y a eu les Assises de Lille, les Assises de Caen, et là, c'était les troisièmes Assises nationales. Pour la première fois, on a eu un discours politique, je dirais, très fort et qui dépasse le discours politique écrit par les cabinets. C'est-à-dire que la ministre Bateau a eu un discours d'engagement très important. Et vous allez voir que ce n'est pas qu'événementiel et lié aux assises et pour faire un effet de tribune. Depuis, il s'est passé des choses qui montrent qu'il y a par le gouvernement actuel, donc par le ministère qu'elle représente, mais vous verrez par le gouvernement, une réelle prise en compte de l'éducation à l'environnement et au développement durable, prise en compte qui, jusqu'à présent, à ce niveau-là, n'avait jamais eu lieu. Donc ça me paraît important pour notre AG de vous signaler ça. La deuxième information que je voulais partager avec vous, c'est, et qui va dans ce sens-là, c'est le fait qu'on a appris en mars que le Jacques Moret, qui est le recteur de l'Académie de Poitiers, s'est vu confier une mission nationale, à la fois par le ministère, évidemment, de l'Éducation nationale, mais le ministère de l'Écologie est évidemment impliqué aussi. Et donc, le recteur Moret a une mission nationale, mais ce n'est pas inintéressant que le recteur Moret soit implanté sur l'Académie de Poitiers. Et donc, sa mission est à la fois de voir les conditions d'une généralisation de l'enseignement de la biodiversité, donc là on est bien sur les enseignements, et en même temps aussi une généralisation d'une manière transversale de l'éducation au développement durable. Donc les deux sont confortés. Et dans ce cadre-là, le recteur Moret se livre à pas mal de consultations, et naturellement il s'est tourné vers l'IFRE, nous a demandé de lui envoyer un dossier sur à la fois nos activités, mais aussi nos propositions, ce qui est une vraie prise en compte de notre institut, et nous devons le rencontrer dans les semaines qui viennent. Donc vous voyez à la fois cette prise de position forte de la ministre à Lyon aux Assises, cette mission du recteur Moret, et puis pour être dans la suite de ce discours des Assises de Lyon, en avril, nous étions invités donc au ministère de l'Écologie, et là, il nous a été annoncé que la future conférence environnementale des 20 et 21 septembre prochains, vous savez qu'elle fonctionne par thème, et cette conférence environnementale, elle donne lieu à une feuille de route. Elle a pour objet l'écriture d'une feuille de route pour le gouvernement, feuille de route qui ensuite fait l'objet de la part du Premier ministre, de feuilles de route pour chacun des ministères. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. Et il nous a été annoncé que l'éducation à l'environnement et au développement durable ferait partie, serait un des 5 thèmes qui serait retenu et donc traité sous forme de table ronde pendant la conférence environnementale. Ça veut dire très concrètement que sur l'année 2014, fin 2013, année 2014, chaque ministère va recevoir une lettre du Premier ministre dans lequel, on ne peut pas dire ce qu'il y aura aujourd'hui dedans, mais ce qui est sûr, c'est que tous les ministères, puisque c'est le propre de la conférence environnementale, c'est qu'ensuite elle s'est déclinée dans tous les ministères. Et donc ça veut dire que tous les ministères, d'une manière ou d'une autre, vont avoir à intégrer l'éducation à l'environnement vers un développement durable. Et on voit dans d'autres interventions, on était quelques-uns à être présents à la réunion sur les fonds européens, par exemple, et il devient presque banal d'évoquer quelque chose que nous, on défend depuis des décennies, qui est, par exemple, la conditionnalité éducative dans tous les projets qui touchent à l'environnement et au développement durable. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un projet qui touche à l'environnement sur un territoire, et que, bien évidemment, on est dans une logique d'argent public et de pouvoir public à la manœuvre, eh bien, cette idée que qu'on nous a renvoyée comme une idée complètement farfelue il y a quelques années, cette idée d'installer une conditionnalité parmi les conditionnalités écologiques, on en a déjà beaucoup hein, qui fonctionnent, existerait, ou ça devient de plus en plus plausible de penser, qu'une conditionnalité éducation à l'environnement serait mise en place sur tous ces projets-là. Donc vous voyez que ce tour d'horizon de ce début d'année 2013 pour notre champ d'investissement et d'action est très important. Donc ça, c'est ce qui nous a été annoncé en avril. Le 23 mai, si on revient en région, nous étions au lycée de Mel et de nombreux partenaires, dont l'État, le Conseil régional, beaucoup d'associations, ont manifesté puisque c'est l'expression qui a été retenue, manifestation d'intérêt pour le développement de l'EDD par la création d'un espace régional de concertation. Alors ça existe dans beaucoup d'autres régions depuis pas mal de temps. En Poitou-Charentes, cette idée, on avait du mal à la cerner et à la partager. Et si elle n'est pas partagée, eh bien elle vaut rien si elle est portée que par une ou deux organismes. Là, il semble qu'on est en train d'avancer vers la création de cet espace régional de concertation où le partage d'informations, la mutualisation, peut-être l'efficacité seront abordées en matière de EEDD sur notre territoire picto-charentais. Le 29 mai, en lien avec la mission du recteur de l'Académie, ont eu lieu les 5e rencontres de la biodiversité organisées par le CG 79, et on a vu là un partenariat collectivité territoriale, éducation nationale autour de ces questions de biodiversité, très, très intéressant, et l'IFRE était à l'animation de ces rencontres de la biodiversité. Et puis, dernière chose que je voulais signaler sur ce début d'année 2013, a eu lieu à Marrakech le congrès mondial de l'éducation à l'environnement, et nous étions présents avec, par l'intermédiaire de Jean-Étienne, qui est très sage au fond de la salle, là-bas, et Francis Tubé, c'est le volet recherche de l'IFRE. Nous avons fait donné des contributions, et nous avons, d'inscrit, je te regarde Jean-Étienne, dans les actes qui sortiront de ce congrès mondial, deux contributions de l'IFRE, une sur les démarches participatives, le panel de citoyens sur le fleuve Charente, et l'autre sur les travaux que l'on a fait sur précarité et éducation à l'environnement. Donc voilà, ça veut dire l'IFRE, vous voyez, tout en étant peu médiatisé et en restant très modeste, continue à avoir des implications régionales fortes, mais aussi d'être en réseau au niveau national et international. Dernière information qui montre aussi à quel point les choses avancent sur ce terrain de l'éducation à l'environnement et au développement durable, ça ne peut que nous satisfaire tous, parce que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Le Premier ministre a demandé au Conseil économique et social environnemental national de faire un travail de saisine sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et cette saisine va avoir lieu là dans les semaines qui viennent, et donc sera remise au Premier ministre sans doute avant la conférence environnementale du mois de septembre. Donc vous voyez qu'il y a vraiment convergence au niveau régional, au niveau national, d'avancées concrètes. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans les discours. Là, il y a des faits réels. Hein, avec, par exemple, la retombée des feuilles de route après la conférence environnementale, il y aura forcément des choses concrètes. Et il nous est demandé, dans la préparation de cette conférence environnementale, d'être force de proposition, et l'IFRE fait partie de l'espace national de concertation, est force de proposition pour cette table ronde, puisque ce qui est important, c'est que des feuilles de route qui vont redescendre vers les ministères, il faut qu'elles contiennent des mesures concrètes. Vous imaginez, par exemple, que celle sur la conditionnalité éducative, nous allons la porter et la défendre fortement. Voilà, sur les trois sujets que je voulais aborder avec vous, qui, eux, pour le coup, relèvent bien de 2012 et de notre AG statutaire. Trois sujets. Le premier, la recherche en éducation à l'environnement, au développement durable. Jean-Étienne est avec nous. Jean-Étienne fait toujours partie de l'IFRE avec un statut qui a changé. Quand le poste de Jean-Étienne a été supprimé au regard de l'IFRE, c'est-à-dire que Jean-Étienne a été récupéré entièrement par l'université, nous avons perdu de fait notre poste de chercheur. Depuis, on ne cesse d'avoir des rencontres, des démarches pour reconquérir ce poste de chercheur. Il nous semblait très, très important de ne pas disparaître du monde de la recherche, et donc Jean-Étienne a bien voulu accepter de rejoindre les rangs de l'IFRE. Donc Jean-Étienne se retrouve avec un contrat de travail, quelques heures par mois, mais ça permet de formaliser les choses, et ça permet à l'IFRE de continuer à être présent dans le milieu de la recherche en éducation à l'environnement. C'est une période de transition. Jean-Étienne aussi travaille à cette période de transition, dont l'objet premier est qu'on ne lâche toujours pas en termes d'objectifs. On verra ce qu'on aura à vous dire en 2014. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais c'est bien de renouer avec un poste de chercheur, peu importe après les relations, les modalités pratiques, mais c'est que l'IFRE retrouve toute sa place dans ce domaine-là. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout à visée économique et il ne s'agit pas de défendre la perte du poste de Jean-Étienne parce que ça serait une perte sur le plan économique ou des choses comme ça. C'est que très sincèrement, l'IFRE a trouvé une place dans le domaine de la recherche en éducation à l'environnement qui n'est pas occupée par aucune autre démarche de recherche. Aujourd'hui, il y a des recherches en éducation au développement durable liées au milieu scolaire. L'IFRE est le seul organisme en France qui porte une recherche qui touche, un, à l'éducation pour tous tout au long de la vie, et donc qui ne se contente pas d'être en lien avec le milieu scolaire, premier élément. Deuxième élément, la caractéristique de la recherche menée par l'IFRE depuis sa création, et c'est ce qui a fait notre notoriété, c'est que c'est une recherche qui est entièrement centrée sur les pratiques des éducateurs de terrain. Et la mission de l'IFRE, depuis toujours, c'est de faire que les éducateurs de terrain soient en lien avec des chercheurs pour améliorer leurs pratiques de terrain, pour avoir des démarches réflexives sur leurs pratiques, pour, au bout du compte, améliorer leurs pratiques. Donc moi, je continue à dire que c'est un enjeu considérable pour l'IFRE que de continuer à défendre ça, parce que si on disparaît, ce secteur de la recherche, il disparaît avec nous. Et c'est absurde en plus que le Poitou-Charentes, qui a toujours été en pointe sur ce terrain, ne défende pas cette idée-là. Pourquoi je parle du Poitou-Charentes ? J'ai demandé un rendez-vous à la présidente de région le 28 janvier, j'ai toujours pas de réponse. Je comprends bien que la présidente de région a des tas de problèmes à traiter très importants, un livre à présenter, des tas de choses à faire, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'un organisme comme l'IFRE, qui est financé à 50% par la région, qui est en partenariat étroit autour de statuts qui ont été écrits avec la participation de la région. C'est-à-dire la région, elle a tenu le crayon quand on a réécrit les statuts en 2004. Je ne trouverais pas abusif que sur un espace-temps plus d'une décennie, que celui qui représente cet institut puisse partager un temps de travail avec la présidente de la région. À suivre. Sur j'ai renouvelé ma demande de rendez-vous récemment. Voilà. Et Laurence, qui est là au premier rang, évidemment, s'est fait avec elle, avec sa collaboration, et elle a toutes les informations concernant ses courriers et ses demandes. Voilà. Je pense qu'on est des partenaires très loyaux d'un projet que l'on partage. Pour moi, la relation gagnant et l'exercice démocratique, ça se partage. Voilà. Il y a pas, les légitimités, elles sont plurielles. Donc, l'IFRE a une légitimité à demander à rencontrer la présidente de la région sur une question aussi importante. Ce qui ne remet pas en cause, évidemment, nos relations de très grande qualité tout au long de l'année avec les services de la région. Donc voilà, c'est un autre niveau d'intervention. Deuxième point statutaire sur l'évolution du secteur formation. Vous savez, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, il se passe beaucoup de choses sur le champ de la formation et de la formation professionnelle dans le champ de l'éducation à l'environnement, mais l'éducation à l'environnement et au développement durable touche aussi maintenant l'ensemble des secteurs d'activité de la société. C'est bien deux façons de voir. Il y a la formation de ceux qui sont des éducateurs à l'environnement et au développement durable, et puis il y a tous ceux qui, dans l'exercice de leur métier, ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité, etc., intègrent dans leur mission le développement durable et l'environnement. Et donc, sur ce champ-là, l'IFRE est en train de mener une réflexion sur l'avenir de notre secteur formation. Je dégagerai trois points pour dire autour de quoi cette réflexion et les consultations que l'on met est organisée. Sans abandonner totalement l'approche qui est la nôtre depuis la création de l'IFRE, c'est-à-dire qu'il y a une approche plutôt par l'offre qui vient des structures d'éducation à l'environnement et des associations, mais là, ce que l'on souhaite travailler et développer, le premier point, c'est de passer au montage de projets spécifiques en réponse à des sollicitations. De plus en plus, l'IFRE est sollicité pour monter des actions de formation spécifiques. Parce qu'il faut que l'on soit plus attentif à cette demande et qu'on passe d'une logique d'offre à cette logique de prise en compte des demandes et des besoins. Le deuxième point, c'est justement cette question des besoins, c'est que l'IFRE soit en capacité de formuler des propositions qui soient issues des besoins dans les domaines. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de penser que l'IFRE, on est forcément les meilleurs et que si on a une idée de formation, elle est forcément géniale. Si elle ne correspond à aucun besoin sur le territoire, quelque part on peut se faire plaisir, mais on ne sera pas utile à grand-chose. Donc, deuxième point, développer tout ce qui relève de l'analyse des besoins en matière de formation pour qu'on puisse trouver notre place sur ces axes de formation et en particulier sur les formations professionnelles. Et puis, troisième axe de recherche, de proposer des formations longues, non universitaires, pour permettre de consolider les salariés, et là, les salariés, ils sont nombreux dans de nombreux champs, qui sont confrontés à la nécessité de contribuer à l'animation du dialogue territorial et de la concertation. On remarque que la transition écologique, la transition énergétique fait que les démarches de dialogue territorial, les démarches de concertation sont de plus en plus nombreuses. Et c'est un domaine où, y compris dans le champ universitaire, il y a peu de formations qui permettent aux professionnels en place, qui sont confrontés à la nécessité d'acquérir ces compétences-là, et il y a peu de formations qui sont aujourd'hui installées. Donc l'IFRE est en train de réfléchir à la mise en place de parcours professionnels autour de cette idée d'animation du dialogue territorial et de la concertation. Donc voilà les trois pistes qui ont nourri la réflexion en 2012. 2013 est l'année où on est en train d'avancer des pistes concrètes. 2014 doit voir ces pistes devenir des parties intégrantes des activités de notre institut. Et puis, dernière information qui est importante pour une structure, moi je tenais à terminer par ça, c'est on continue à travailler avec l'équipe sur leur statut, leur fiche de poste. Et vous savez que, je vous l'avais annoncé l'an dernier, on va vers une refonte complète de la grille des salaires de l'IFRE. Ça se fait avec l'équipe d'une manière la plus participative possible. Et cette année, ce travail nous a amené à être confrontés à une question qu'on n'avait pas du tout anticipée, qui était la question de la convention qui était la nôtre jusqu'à présent, qui était la convention collective du monde de la formation. Et confronté à la réécriture des profils de poste, à la recherche d'équité entre les chargés de mission, on a fait tout ce travail-là et on a buté sur cette question de la convention collective. Après un travail fait avec un cabinet d'avocats, le conseil d'administration a été saisi de la nécessité de changer de convention collective et donc nous allons passer de la convention collective formation à la convention collective du monde de l'animation, avec des conséquences très très nombreuses. On peut dire que globalement c'est une convention qui est plus favorable aux salariés que la convention formation. Là où elle est très intéressante pour l'IFRE, c'est qu'elle nous installe réellement dans notre champ d'activité, puisque cette convention collective du monde de l'animation, en 2003, s'est saisie de la question de l'éducation à l'environnement et au développement durable, et donc l'a intégrée à la définition de ce qui permet de relever de cette convention. Et je me tourne vers quelqu'un avec qui on était allé voir les services fiscaux il y a quelques années. L'énorme avantage de rejoindre cette convention, c'est que le principe des activités de l'IFRE relevant de l'intérêt général découle de cette convention. Donc cette convention, elle rentre en application au 1er janvier 2014. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, normalement, je mets en débat le rapport moral, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait quelques questions sur ce que je viens de développer, donc soit sur les trois points au niveau statutaire, soit sur les informations que je vous ai données, qui me semblaient vraiment importantes pour tous ceux qui s'intéressent à l'EEDD. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport moral ? Oui ?
Marie Legrand vient de Nature. J'aimerais avoir plus de précisions dans le cadre des événements de début 2013 qui m'intéressent particulièrement sur cette mission nationale confiée à Jacques Morey. Je trouve qu'on est passé un petit peu vite dessus. J'aimerais en savoir plus. Et comment accéder à des infos sur cette mission ?
Alors, accéder à des infos, je ne sais pas si tu as quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai rien, Francis, pour le moment, puisque cette mission, bien évidemment, ce n'est pas le recteur qui la traite en direct. Donc, c'est un IPR, c'est monsieur Fabien, Jean-Pierre Fabien, qui s'est retrouvé porteur de cette mission. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il en est au stade des rencontres avec un maximum de partenaires, dont l'IFRE, et nous, on espère rencontrer le recteur bientôt. Te dire très concrètement aujourd'hui s'il y a des propositions validées, etc., la réponse est non. Donc voilà, on en saura plus. Ce qui est très encourageant, c'est la volonté de consulter les acteurs sur le territoire. Ça me paraît très important. Géraldine, je ne sais pas si tu as des informations qui viennent en interne de l'éducation nationale pour répondre à Marie. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, tout ça, ça va vers la table ronde de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre. D'autres questions sur... Oui, Stéphane ?
Attends, je te donne le micro, Stéphane, parce que c'est enregistré. Oui, mais c'est pour l'enregistrement.
Oui, Francis. Oui, pardon, Michel. C'est juste pour préciser... Tu as dit tout à l'heure que tu avais envoyé un courrier le 28 janvier 2013 à la présidente de région concernant la question de la recherche en éducation à l'environnement à l'IFRE.
Oui.
Si ça n'aboutit pas, qu'est-ce qui peut se passer à
Alors, comme ça n'a pas abouti, d'ailleurs.
Comme ça n'a pas abouti pour le moment, mais supposons, mettons l'hypothèse.
J'ai fait une deuxième lettre. Donc, c'est si ma deuxième lettre n'a toujours pas de réponse, tu
Exactement.
Veux dire.
Exactement.
Alors, je ferai une troisième lettre. Mais je ne vais pas défiler dans les rues de Poitiers avec une pancarte, Stéphane, si tu veux. C'est pas... Voilà.
Non, mais qu'est-ce qui peut se passer après ou qu'est-ce qu'il est utile de faire ?
Ben, ce qu'il est utile, c'est que partout où vous êtes, aujourd'hui, où de nombreuses réunions sont organisées sur la transition écologique, il y a de très, très nombreuses réunions, hein, par exemple celle des fonds européens, à chaque fois, l'éducation, elle est revendiquée. Elle est mise en avant. Donc, si vous vous sentez solidaire, non pas de l'IFRE, pas la question, si vous vous sentez solidaire du fait que ce champ de la recherche, il est fondamental, que c'est important qu'il ne disparaisse pas et que c'est quand même mieux s'il reste en Poitou-Charentes. Si vous êtes convaincu de ça, ben, faut que vous soyez porte-parole de ça, partout où vous êtes. Voilà. C'est simple.
Juste pour... je pense que la présidente a acté le fait de rencontrer l'IFRE. Hein. Enfin, moi, j'en ai discuté avec elle. Donc, il n'y a pas... On va dire que ce n'est pas un souci de fond. Hein. c'est juste un problème de calage d'agenda. Voilà, il y a beaucoup de choses à caler. Et, donc moi, on en a discuté hier avec le cabinet et je pense que très rapidement, il y aura une réponse à cette demande. Quoi. C'est plus, on va dire, une erreur dans l'élaboration de l'agenda de la présidente que ce n'est pas du tout une volonté de la présidente de ne pas rencontrer l'IFRE. Elle a acté le fait qu'elle rencontrerait l'IFRE pour discuter du problème de recherche. Donc, voilà.
Vous voyez ce qui est merveilleux dans la loi 1901 et le statut d'association et de la vie démocratique d'une association. C'est qu'il y a des jeux de rôle au sens noble du mot. Laurence est dans son rôle en répondant ce qu'elle répond, et c'est bien, et voilà. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour que le cabinet soit actif, et moi je suis dans mon rôle. Je continue à dire qu'il n'est pas normal que nous n'ayons pas été reçus à ce jour. Voilà. Et je suis dans mon rôle quand je dis ça. Je suis président d'un institut, encore pour un an. Je suis là pour le défendre et faire valoir ses idées. Je considère anormal que sur une question aussi importante, on n'ait pas été reçu. Voilà. Et Laurence, en interne, avec son statut, celui qui est le sien, elle essaye de faire avancer les choses. Et chacun d'entre vous, vous pouvez faire savoir qu'il est important que la recherche en éducation à l'environnement retrouve sa place en Poitou-Charentes et qu'elle reste en Poitou-Charentes. Voilà. C'est le jeu très subtil. Hein, vous savez, la loi 1901, elle n'existe pas dans les autres pays européens. Donc ça donne toute cette espèce de jeu subtil, voilà, de discours à plusieurs niveaux. Voilà. Eh bien, merci Laurence. D'autres questions? Sinon, est-ce que quelqu'un s'abstient sur le rapport moral? Non. Est-ce que quelqu'un vote contre ce rapport moral? Donc, je vous remercie et on va passer au rapport d'activité. Voilà. Pendant que Francis se prépare, je voulais simplement dire que puisque j'ai terminé sur tout ce qui touche à l'équipe et au personnel, que je n'en avais pas parlé à l'AG, évidemment, 2012. En 2012, il y a une des salariées de l'IFRE qui nous a quittés, qui est dans cette salle, c'est Véronique Jean, et qui a rejoint la mairie de la Couronne, et il se trouve que la mairie de la Couronne est un adhérent de l'IFRE. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun lien d'ailleurs entre les deux informations. Voilà. Et Élodie ne nous a pas quittés en 2012. Donc du coup, Élodie, moi je parlerai de ton départ en 2014.
Bien. Est-ce qu'il faut que je rapproche le micro, remplace le matériel de l'espace en l'espace. Et je vais faire très vite parce que nous sommes très en retard sur le timing. En six diapos, plus une à trois voix, comme ça, voilà, on s'est réparti la tâche au sein de l'équipe. Une présentation rapide du rapport d'activité que vous avez aussi dans votre pochette, hein, dans les documents qui vous ont donné, donc que vous pouvez parcourir. En même temps que je vais balayer donc ces diapositives. Et puis, surtout, ce qui est important, ce sera la dernière et l'intervention des trois collègues qui vont donner d'autres éléments de lecture de ce rapport d'activité, plus sous forme d'interrogation, de questionnement, et à partir desquels nous pourrons échanger tous ensemble. Alors, des éléments de lecture ou d'illustration qui, j'espère, vont vous donner plus concrètement ce que peut relever de l'offre de service de l'IFRE. Je vais le dire comme ça. Notre idée, c'est de vous faire apparaître nous sommes en capacité, vous le savez bien, évidemment, mais encore plus aujourd'hui, de répondre vraiment à des besoins sur le territoire, en Poitou-Charentes, un peu au-delà, d'ailleurs, si on nous sollicite, même si on est toujours très prudent à ne pas se disperser et à faire tout le tour de la France, mais des capacités réelles à être un outil au service des Picto-Charentais un outil pour les institutions, un outil pour nos partenaires, un outil pour les membres, bien évidemment, sur les questions d'éducation à l'environnement, et donc un outil au service de l'excellence environnementale en région. Un premier axe que vous connaissez bien, sur lequel on revient très régulièrement, qui est la ligne de force de l'activité de l'IFRE, c'est la formation des acteurs relais. Pourquoi acteurs relais ? Parce qu'on sait bien qu'il y a ceux dont le métier est de faire de l'éducation à l'environnement, mais il y en a plein qui en font dans leur métier, voire même dans leurs activités bénévoles. Hein. On réduit pas cette idée-là au seul fait des professionnels, qu'ils soient du monde de l'éducation à l'environnement, du monde de l'environnement, du monde du développement durable. Ce sont aussi des élus, sont aussi des bénévoles associatifs ou des militants, voire des militants syndicaux, puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir il n'y a pas très longtemps auprès de l'hôpital psychiatrique Henri Laborie à Poitiers pour parler jardin et voir dans quelle mesure auprès de militants syndicalistes ce que ça pouvait apporter. On est aussi dans cette dimension de dialogue social plus large et de ce que peut apporter l'éducation à l'environnement sur ces questions-là. Donc, ce que l'on peut pointer plus particulièrement, c'est le développement des formations à la demande. C'est vrai que nous sommes de plus en plus sollicités pour mettre en place des formations coûts humains, on va dire, ou co-construites avec nos commanditaires. Donc, le volet formation à la demande. Et puis, des nouveaux secteurs professionnels à toucher, que ce soit sur le social, que ce soit sur les dynamiques territoriales, que ce soit le monde du sport, par exemple. On a, alors c'était en 2013, hein, c'est toujours compliqué, les rapports d'activité, on est à cheval sur ce qui s'est passé l'année dernière et puis sur ce début d'année, on est déjà mi-2013, avec le ministère des Sports sur biodiversité et activité sportive, par exemple. En plus, c'était quelque chose de très intéressant puisque ça mettait en œuvre les technologies de l'information et de la communication dont on parlera dans notre table ronde de tout à l'heure. L'accompagnement des démarches de développement durable, bien évidemment un axe fort de développement de la structure et de maintien de nos activités, avec une réelle spécificité sur laquelle il faut vraiment insister, c'est la question de l'approche éducative que nous impulsons, que nous mettons dans ces démarches d'accompagnement et qui sont vraiment ces approches éducatives très, 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 très fortes et en lien, encore une fois, avec l'objet même, avec les statuts de l'IFRE. Michel le rappelait tout à l'heure, cette question de convention collective, de discussion que nous avons pu avoir avec les services fiscaux, tout ça est très lié. Nous sommes bien dans une démarche éducative autour de ces questions d'accompagnement de démarches de développement durable. Alors, vous avez là plusieurs illustrations avec les accompagnements que nous avons pu mener ou que nous continuons à mener, et puis les ouvertures, que ce soit autour du champ de la formation professionnelle, puisque les organismes de formation professionnelle ont l'obligation au moins morale, mais même maintenant, pour certaines, dans certaines régions, une vraie conditionnalité autour de ça, de prendre en compte les démarches de développement durable, à la fois en termes d'éco-responsabilité, mais aussi dans leur offre de formation et dans même leur pédagogie qu'ils peuvent mettre en œuvre autour de ces questions-là. Et puis, ce réseau d'acteurs autour des questions de concertation. Je pense notamment à la question de l'eau qui nous occupe beaucoup. Contribuer au débat et à la réflexion en région Poitou-Charentes, ça a été pour nous en 2012 l'occasion d'initier un cycle annuel de rencontres régionales sur le dialogue territorial qui, on l'espère, va pouvoir perdurer. Sur cette année 2013, on avait prévu une deuxième journée le 18 juin. On a été obligé de la reporter faute d'un nombre d'inscrits suffisant. Donc ça se tiendra début 2014. Mais c'est là aussi quelque chose qui nous tient très à cœur. On a appris d'ailleurs que la région lançait un appel à projets sur ces questions de dialogue social territorial. Voilà, on sent bien qu'il y a là quelque chose d'important. Et pour nous, à l'IFRE, pouvoir contribuer à ce débat et à cette réflexion, ça nous motive beaucoup et ça nous intéresse beaucoup. Développer la production de ressources pédagogiques, hein, c'est un de nos axes forts également d'activité. Vous avez pu voir en fin d'année 2012, tout début 2013, la réalisation et la sortie du numéro 4 des livres et de l'IFRE sur éducation à l'environnement vers des publics en situation de précarité. Moi, je suis... toujours très surpris du succès, même si on sait qu'ils sont de bonne qualité et travaillés notamment par Annie de façon très, très sérieuse, bien évidemment, et en lien d'ailleurs avec l'idée de recherche, hein, dont on parlait aussi dans le rapport moral, dont Michel parlait dans le rapport moral. Mais ça a à chaque fois un succès au niveau national. C'est livré très, 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 très important, très, très intéressant. Et bien évidemment, celui sur les publics en précarité sociale et économique rencontre ce même succès. Une formation a eu lieu en début d'année sur ce thème qui a très bien fonctionné, où il y avait un public très large. Les prochaines assises nationales du développement durable qui vont se tenir à Marseille au mois de novembre, sont intéressés aussi par ce livret et il se pourrait qu'il y ait une table ronde ou quelque chose qui se tienne sur cette question. Un outil sur le bocage qui est en partenariat avec l'ONCFS, c'est là aussi quelque chose qui nous intéresse bien, qui fonctionne bien pour l'instant et qui devrait se concrétiser et déboucher début 2014 ou dans l'année 2014 en tous les cas pour sa réalisation. Et puis une fiche thématique sur la participation puisque ben, là aussi c'est quelque chose que nous travaillons et qui nous intéresse beaucoup. Nous sommes en lien avec un organisme qui s'appelle GESER. Il y a des choses qui sont en train de se discuter, se préfigurer, on en est au tout début, autour d'un site internet qui s'appelle Comédie, qui existe déjà, mais qui va se réorienter. Site internet très participatif, où nous sommes sollicités pour apporter éventuellement des compétences et des moyens autour de ça, des moyens humains et de compétences. Contribuer à la recherche, je passe très très vite, puisque Michel en a parlé, le séminaire qui a eu lieu sur ville durable et développement durable au mois de novembre 2012. Et puis la sortie du numéro 10 de cette revue internationale francophone. On en avait mis à disposition à l'accueil quelques exemplaires du numéro 6, je crois, sur institutions scolaires. Hein. On en a d'autres, si ça vous intéresse, on peut vous en donner. Puis j'avais prévu de vous montrer au moins la couverture du numéro 10, mais je ne sais pas où je l'ai déposé. Donc, c'est là. Ah ben voilà, c'est là. Donc le numéro 10, dont les communications du colloque qui s'est tenu à La Rochelle et la ligne de force, hein, donc habiter l'ancrage territorial comme support d'éducation à l'environnement. C'est une vraie revue de recherche, vous voyez, c'est un bouquin hein, à chaque fois qui sort. C'est quelque chose de très, très important à mon sens, pour le monde de la recherche, pour l'IFRE, et on y travaille beaucoup avec Jean-Étienne. On a rencontré Lucie Sauvé au congrès mondial à 3 reprises sur cette question-là dans la semaine pour pouvoir consolider notre partenariat. Et puis, un dernier volet avant de passer la parole à mes collègues sur l'accompagnement des territoires pour comprendre l'évolution des métiers liés à l'environnement. C'est quelque chose que nous travaillons beaucoup avec l'ADEME. On espère sur cette année 2013 et 2014 d'ailleurs pouvoir consolider cette entrée avec notre partenariat avec l'ADEME. Là aussi, c'est quelque chose que l'on met du coup en lien beaucoup avec les problématiques d'économie verte, puisque ça va faire l'objet d'un séminaire, d'une journée de séminaire avec l'ADREAL et la Directe et la région Poitou-Charentes. Là aussi, à l'automne de cette année, les dynamiques territoriales liées aux métiers, aux emplois dans les territoires, sur l'environnement et l'économie verte, c'est bien évidemment quelque chose qui est très, très lié. Voilà. On va passer tout de suite la parole à Marie, Vivien, Annie Boer et Cécile Malfray, en lien avec ce rapport d'activité, enfin cette présentation. Tout ça suscite un questionnement chez nous, des interrogations, et on voudrait vraiment qu'il y ait un partage avec vous sur tout ça. Vous pouvez vous installer, il n'y a pas de problème, on va vous laisser la place. Je vais donner la parole dans un premier temps à Marie sur le champ de la formation plutôt. Et puis on aura un échange, hein, bien sûr, des questions et des réflexions.
Merci, bonjour à tous. Donc c'est surtout pour clarifier la nature de nos propos. Ce qu'on va vous livrer, c'est des sensations, c'est des perceptions. C'est en aucun cas des certitudes, des affirmations. Mais l'objet est justement de discuter de ce que nous, on a perçu, ce qu'on a l'impression de comprendre de la situation. Donc sur le champ de la formation en éducation à l'environnement et au développement durable, on a voulu ressortir 2 points. Un point qui concernait un peu plus la manière dont on regardait notre réseau de partenaires en éducation à l'environnement et au développement durable en région. On a le sentiment qu'il y a en fait on constate une grande disparité. Les structures ne se saisissent pas de choses de manière uniforme. Alors on a le sentiment que dans leur capacité ou leur souhait de découvrir des nouveaux champs d'activité au regard de leur projet, leur projet de structure, il y a une grande diversité. Donc on l'a constaté parce qu'on les a rencontrés pour les interroger sur le programme de stage, enfin voilà, au travers de différents entretiens. Il y a une disparité dans la capacité, ou en tout cas dans l'envie surtout, de changer de public. Donc on a le sentiment qu'il y a des structures qui sont allées au-delà du public scolaire et qui sont vraiment entrées et allées vraiment nettement vers le public adulte. Donc en allant vers derrière, on met techniciens, élus, habitants par exemple. Vraiment, on a le sentiment que les structures ne se sont pas saisies ou n'ont pas souhaité saisir des choses sur cet aspect-là. Il y a une vraie diversité. Ouvrir le champ d'activité de l'éducation à l'environnement en allant jusqu'à faire de l'animation, de la participation, de la concertation et de l'accompagnement de groupes de travail. Là, on constate aussi, quand on en discute avec nos partenaires, qu'ils n'ont pas souhaité saisir de ce champ qui nous semble émergent, nous, à l'IFRE, et sur lequel, quand on parle de la formation à la demande, on a quelque chose qui est en train de monter. Et donc, on sent qu'on ne peut pas aller chercher tous nos partenaires là-dessus parce que tous ne s'en sont pas saisis dans leur activité. Et on a le sentiment qu'ils ne sont pas tous passés d'un programme autonome de la structure, c'est-à-dire avec un objet, une visée, et donc recherche de budget pour essayer de répondre à cet objet, à je me rapproche ou je m'inscris dans des politiques territoriales. Donc là, les structures nous l'ont dit, on n'a pas tous fait ça. Certains sont vraiment rapprochés d'une collectivité très très proche sur un projet de territoire de proximité. Et d'autres ne l'ont pas fait encore. Donc voilà, ça aussi, dans le côté élargissement du public touché, ben, ça peut aussi s'expliquer par rapport à ça. Donc on a le sentiment qu'il y a une variation sur ça. Donc nous, on le relie aussi au fait que, comme on a de plus en plus de formations à la demande sur certains champs, eh ben, il y a des partenaires qu'on peut aller moins facilement chercher dans nos collaborations, de par leurs pratiques actuelles dans leur structure. Et le deuxième volet, il est plutôt lié à qui on arrive à accueillir dans le champ de la formation, enfin dans notre activité formation en éducation à l'environnement et au développement durable. Là, c'est plutôt lié aux entretiens que j'ai eus avec plusieurs structures, salariés, élus, où on a le sentiment en fait, que la formation des salariés n'est pas suffisamment envisagée comme un élément de développement des activités de la structure. Donc vraiment, le champ former les salariés est très peu envisagé, voire pas structuré. Voir s'il y a accès à la formation, ce n'est pas toujours en lien avec les activités actuelles ou visées de la structure, c'est-à-dire que soit c'est vraiment un souhait personnel du salarié, mais ce n'est pas discuté à l'échelle de la structure, voire c'est même pas envisagé comme une perspective de développement pour la structure. Donc on a plutôt un côté immédiateté de la formation, avec le côté certaines personnes qui appellent en disant bah, « je vais avoir un projet cette année, il faudrait que je me forme ». Enfin, il y a un côté très, très pressé, il n'y a pas d'anticipation sur un projet de structure, quoi. Et de dire qu'il y a aussi rarement une structuration du parcours professionnel en interne des structures, on entend plus les salariés dire bah, « oui, il n'y a pas... on ne voit pas d'évolution », mais ça, on le lit aussi au fait qu'au niveau national, il n'y a pas de filière professionnelle structurée. Donc bon, ça se répercute dans les structures et dans leur manière de fonctionner. Donc, il n'y a pas de réflexion sur un parcours de formation pour permettre aux individus une progression professionnelle, niveau de responsabilité, changement de poste. En général, c'est plus envisagé comme un changement de structure qu'en interne. Alors là, c'est, vous voyez tout le bémol que je peux mettre autour de ça, c'est un sentiment, ce n'est pas uniforme, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quelques éléments qui ressortent du temps qu'on a pu passer à regarder ces points-là. Donc, j'enchaîne.
Bon, peut-être s'il y a des questions, oui, parce qu'après, on oublie. Est-ce que ça vous renvoie, vous, à une réalité que vous connaissez par ailleurs, ou au contraire, vous avez d'autres éléments de lecture et l'idée que, ben, en tous les cas, c'est pas ce que vous vivez ou vous ressentez sur ce champ de. C'est une vraie interrogation chez nous. Pierre.
Ouais, je veux bien.
Pierre Fantin, directeur de Charente Nature. Donc, je parle plus au nom de Charente Nature et peut-être un peu plus au nom des APNE qui font l'éducation à l'environnement, des associations de protection de la nature et de l'environnement. Je crois que Marie, tu as dépeint effectivement, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, au niveau des APNE, je dirais ce que tu as dit et reflète complètement le fonctionnement même de nos structures. D'abord, au niveau des APNE, le champ d'éducation à l'environnement est parfois pas très développé. Il y a quelques structures qui l'ont vraiment développé depuis un certain nombre d'années. Ça commence à venir de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Donc après, notre souci, après nous, au sein de nos structures, en termes de la formation donc des salariés, effectivement, on est sur ce que tu as dit, on est plus sur le côté ponctuel, le côté initiative personnelle de chaque salarié. Il n'y a pas de plan de formation, en tout cas en ce qui concerne ma structure. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on mette quelque chose en place là-dessus. C'est vraiment très, très important. Je crois que tu as vraiment bien dépeint, en tout cas pour les APNE, nos soucis de fonctionnement au niveau de la formation, c'est clair. Après, ce qu'il y a, les collègues animateurs, éducateurs à l'environnement sont déjà excessivement, je dirais, impliqués, investis déjà dans leur mission. C'est vrai, c'est plus au niveau d'un public scolaire, mais pas uniquement. On développe aussi d'autres actions auprès d'autres publics. On participe aussi à de l'accompagnement au niveau notamment de collectivités, en lien d'ailleurs avec l'IFRE, je pense à Angoulême notamment. Mais il y a encore tout un champ de structuration au sein des associations pour arriver à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, pensé. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire reflète bien la situation.
D'autres remarques ? Comment on pourrait aider, enfin, c'est tout bête, hein, alors Gilles, comment on pourrait, je reviens sur cette idée d'outils, hein, voilà, on est à votre service, en quoi on peut apporter des choses, des éléments de réflexion peut-être, ou d'analyse, qui pourraient vous rendre service là-dessus ?
Je ne sais pas, mais...
Merci Gilles. Mais,
non, ce que je voulais dire, c'est que dans les associations actuellement, le saut qualitatif développement durable n'est pas fait. Autant en termes d'environnement, je veux dire, il y a des choses qui évoluent petitement, ce qu'il faudrait arriver à faire passer, parce que vous savez, dans un conseil d'administration, ceux qui sont au conseil d'administration, ils viennent à partir d'une préoccupation qui est la leur. Donc ça peut être la petite fleur, ça peut être les déchets du coin, ça peut être l'énergie, etc. Mais il y a des difficultés à faire passer le message en termes de développement durable, même si ça vient à un moment donné. Et la prise en compte collective est difficile. Et il me semble que c'est sur cet aspect-là où il faudrait montrer beaucoup plus, et par des pratiques, je veux dire, que le développement durable, on y est confronté, pas que le week-end ou que par rapport à un domaine particulier, mais que c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est sûrement dans ce domaine-là où il reste beaucoup de travail à faire. Alors, je parle, moi, d'un conseil d'administration. Quand on parle de la population dans son ensemble, quand on va dans un centre social, etc., je vous dis pas. Et pourtant, il y a des choses qui se vivent. Il y a des... faut aller chercher... Moi, j'ai dit ça à un centre social il y a 2 jours. Dans la vie de tous les jours, il faut qu'on trouve des éléments pour montrer comment ça joue sur le développement durable. Mais à partir de sa vie, il faut prendre sur le terrain et amener des éléments de réflexion à partir de ça. Moi, je ne vois pas d'autres solutions. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de solution.
À vous proposer comme ça.
Bon.
Il faut de la recherche.
Oui, Pierre. Oui, oui. Alors, peut-être on a... Le livret numéro 4, dont il sera question d'ailleurs tout à l'heure, sur la question de la précarité, tu vois, sur des entrées comme ça, on essaye, mais c'est vrai que c'est difficile.
Je crois qu'il y a quelque chose d'important, en tout cas pour nous, à Charentature, au niveau du secteur éducation, des collègues, c'est leur participation au groupe régional de formateurs. Ça, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'important. Je suis désolé que le groupe régional d'accompagnateurs n'existe plus. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment d'important. Parce que là, au travers de ça, pour nous, on est sur le terrain, on est souvent débordé. Et je rejoins Gilles, ce qui nous est demandé ce qui est demandé par mes collègues, c'est quelque part un peu du concret, même s'il faut qu'on dépasse le concret. Il faut qu'on arrive aussi à analyser nos pratiques, etc. Il faut qu'on soit aussi sur du réflexif. Mais il faut... À mon avis, on sait bien, les animateurs de terrain, les animateurs dans nos structures, c'est quand même des femmes et des hommes de terrain qui ont besoin d'avoir cette entrée un petit peu très concrète pour aller plus loin après, pour pouvoir réfléchir sur leur pratique, etc. Et je trouve que de travailler au sein même du groupe régional formateur, c'est vraiment quelque chose d'important, à la fois bien sûr pour mettre en place les stages, mais pas uniquement, hein, sur des thématiques. Et je déplore, c'est vrai que le groupe régional d'accompagnateurs, qui, à mon avis, était vraiment très intéressant, c'était innovant. C'est un autre métier, en plus. Là. On est sur un autre... n'existe pas, peut-être que ça reverra le jour, j'espère en tout cas.
Oui, on l'espère aussi. Après, il faut être suffisamment nombreux pour pouvoir travailler ensemble. Quoi. C'est ça le problème. On passe au sujet suivant, Annie.
D'accord. Donc je parle dans ce micro-là.
Oui.
Ça marche. Donc moi, en deux mots, pour vous dire que donc le livret numéro 4, il nous a permis d'aborder un petit peu, de travailler la question du croisement entre préoccupations sociales et préoccupations environnementales. Et ce n'était pas du tout une évidence au démarrage. Hein. On disait que le monde du social avait des préoccupations bien plus urgentes, n'avait pas un impact écologique énorme. Et donc se dire, est-ce qu'il y a un sens à faire des actions avec des publics, des actions d'éducation à l'environnement avec des publics en situation de précarité? Est-ce que ces deux mondes, le monde des travailleurs sociaux et de l'éducation à l'environnement, ont développé des expériences de travail ensemble? Voilà, tout ça, ça a été vraiment une découverte. Alors, il s'avère qu'effectivement, les deux mondes de l'éducation à l'environnement et du travail social sont deux mondes extrêmement séparés, qui se connaissent très très peu. Le monde de l'éducation à l'environnement est un peu tout petit, même s'il est complexe au niveau de ses acteurs. Par opposition, le monde du travail social est énorme, et donc c'est très difficile d'appréhender les bons acteurs pour les bonnes actions. Donc ce sont deux mondes qui ont du mal à se mettre en connexion. Et pourtant, quand on creuse un petit peu, ce sont deux mondes qui partagent vraiment des valeurs communes autour de l'éducation des personnes, de la valorisation des personnes. Et il y a un réel intérêt, alors que je ne vais pas développer ici, mais autour de... on a trouvé un certain nombre d'actions qui se sont mises en place, notamment liées à la préoccupation dont on a beaucoup parlé là, depuis le début, de précarité énergétique. Mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de choses qui se font par rapport au thème du jardin et de l'alimentation qui ont un vrai sens, à la fois économique, à la fois en termes de bien-être pour ces publics-là. Il y a aussi des actions sur la consommation et les déchets. Je pense à celle menée par Charente Nature, sur laquelle on s'est appuyé à la fois pour le livret et pour le stage qui a eu lieu après, qui a réuni 14 participants. Donc c'était une belle réussite. Mais aussi sur des thèmes avec un caractère beaucoup moins utilitaire et qui, pourtant, vont toucher un élément vraiment très important par rapport à ce public, qui est l'élément du bien-être, et qui sont tout simplement des sorties nature, permettre à ces personnes aussi de découvrir la nature au même titre que d'autres. Voilà, donc, bon, on a découvert que ça avait du sens, pour de vrai, de travailler sur le croisement de ces préoccupations. Une des choses que ça nous a permis de pointer aussi, même si ça n'a pas été énormément développé au sein du livret, c'est, mais ça rejoint des préoccupations qu'on a par ailleurs à l'IFRE, c'est dans tout ce qui est domaine de la concertation et de la participation citoyenne, la vraie lacune de participation au niveau de ces publics spécifiquement. On sait qu'on a du mal à mobiliser les habitants, les publics en général, mais il semble qu'il y ait une réalité encore plus importante du côté des publics en situation de précarité. On parle parfois des sans-voix. Comment alimenter cette participation des sans-voix? Ça nous a semblé une problématique importante. Il y a d'ailleurs un certain nombre de dossiers qui sont sortis sur la question, un avis du Conseil national des villes, des recommandations du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour améliorer la participation des exclus donc aux décisions publiques, notamment par rapport aux politiques qui les concernent dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. Donc voilà une dynamique sans doute à saisir à ce niveau-là. Et puis un deuxième point qui nous semblait important aussi, quand on a creusé un petit peu sur les pratiques éducatives menées avec ces publics, on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus du ressort finalement de l'accompagnement que de la formation et de l'animation classique. C'est-à-dire que tout ce qui est apport transmissif est vraiment pas adapté, est généralement peu adapté à un public adulte, on va dire. Il vaut mieux être dans des mises en situation qui vont solliciter l'expérience des gens. Mais vraiment, avec ce public-là, ça s'impose comme une réalité très importante de partir de leur expérience qui est particulière et de laquelle on ne peut généralement pas présager, et de les accompagner dans la construction de quelque chose. Alors, ça veut dire qu'on met en marche des démarches participatives qui ne sont pas forcément de l'ordre du dialogue territorial ou de la concertation, mais qui peuvent être de l'ordre de ce qu'on appelle les démarches participatives bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir d'une envie de quelque chose qui se crée sur un territoire, auquel on va donner un cadre, parce que ce n'est pas évident pour des personnes en situation de précarité de s'auto-saisir de quelque chose, mais par contre on peut leur offrir un cadre qui leur permet de travailler à partir de leurs envies sur des projets qu'ils vont construire. Et c'est les actions les plus abouties qu'on a recensées voilà, dans le cadre de ce travail. Et ça rejoint un petit peu les dynamiques sur lesquelles on travaille au niveau de la formation à l'IFRE, où on s'aperçoit que travailler sur cette dynamique d'accompagnement, ça nous semble aujourd'hui prioritaire. Donc voilà en deux mots.
Alors, pour ne pas être trop top-down, s'il y a des questions, des remarques. Vous voyez qu'on a un lien à chaque fois. Hein, on fait en sorte de construire les choses de façon cohérente et liée, bien sûr. Cécile, pour continuer.
Oui, alors pour faire suite à ce qu'ont pu dire mes collègues, et en particulier Annie juste à l'instant, moi, mon regard, il est plutôt par rapport à l'accompagnement des démarches développement durable et en particulier des agendas 21 menés par des collectivités territoriales sur le territoire picto-charentais essentiellement, mais pas que. Et effectivement, on aperçoit, on pressent, on voit une montée en charge des approches intégrées, cohésion sociale et prise en compte de l'environnement. Et c'est vrai que le sujet de la précarité énergétique est vraiment un sujet phare et qui est qu'on voit bien, qu'on perçoit bien comme à la croisée de ces différents champs et sur lesquels les collectivités territoriales investissent de plus en plus, sachant qu'avec tous les enjeux qui sont liés aujourd'hui au climat, on comprend bien cette situation. Et il existe un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau national, donc, qui s'intitule Cohésion sociale et Agenda 21, donc, composé d'un certain nombre de collectivités, et qui a réfléchi à cette question de l'approche intégrée, comment faire en sorte que le volet social du développement durable soit réellement pris en compte, dans les projets, dans les réflexions, dans les stratégies de développement durable. Et l'idée, c'est de travailler à cette vraie articulation, et pas simplement dire on verdit l'un et on socialise, je ne sais pas comment dire, l'autre, mais vraiment comment on articule ces deux champs. Et c'est un peu, ça rejoint ce que disait Annie dans comment les travailleurs sociaux et les chargés de mission développement durable, Agenda 21, peuvent aussi travailler ensemble à l'articulation et à la mise en place de projets. Et donc nous, on intervient depuis le début de l'année 2013 pour le Conseil général de Gironde dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de solidarité écologique, donc qui est issue du Grenelle de l'environnement, hein, dont la Gironde est, je crois, le seul territoire à s'en être saisi, et qui travaille à cette articulation, à vraiment comment on peut mettre en place cela véritablement sur les territoires. Donc voilà. L'idée, c'est de muscler cette finalité cohésion sociale, solidarité entre les personnes et entre les générations, et entre les territoires, pardon, du développement durable. Et puis, alors, ce qu'on entend, ce qu'on semble voir aussi, mais c'est plus timide peut-être, je dirais, mais ça semble quand même important, enfin, nous semblait important de vous en faire part, c'est le fait que dans le contexte actuel, le développement durable est en recul. Alors, sous couvert de crise, hein, on recentre aussi les activités et on reviendrait à une approche plus sectorisée. Et l'approche globale du développement durable serait un petit peu mise à mal. On est beaucoup dans les plans climat, mais aussi les plans biodiversité. On resectorise un peu les choses. Et cette approche intégrée, globale, systémique que permet le développement durable serait un peu mise à mal. Et un certain nombre de collectivités sont en train de réfléchir à une mobilisation, notamment c'est la ville de Pessac qui nous en a parlé de manière plus importante, donc en Gironde, pour peut-être aller jusqu'à une sorte de manifeste en direction de l'État pour dire attention, l'évolution ne va peut-être pas dans le bon sens et aujourd'hui on résume le développement durable à la croissance verte. Et pour finir, quelque chose qu'on éprouve, qu'on a la chance de vivre et qui, avec la communauté d'agglomération de Niort avec laquelle on travaille depuis de longues années, puisque ça fait 5 ans qu'on a amorcé le travail et 3 ans avec l'ensemble des agents, on s'aperçoit véritablement que ces démarches Agenda 21 permettent réellement la mise en place d'une transversalité dans la collectivité. Or, moi, la première, au départ, quand j'ai compris le fond et que j'ai bien appréhendé le fonctionnement des collectivités, qui est culturellement très, très vertical, enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'est très, très cloisonné, les gens travaillent dans leurs services, il y a très peu de liens interservices, il y a très peu de transversalité, parce que voilà, c'est le fonctionnement qui veut ça. La littérature disait les agendas 21 vont permettre de décloisonner, de travailler en transversalité, c'est un grand mot, la transversalité, etc. Et même moi, je me disais, est-ce que c'est bien possible ? Et vraiment, là, avec la CAN, on s'aperçoit que c'est réellement possible et que ça génère des choses vraiment très, très intéressantes en interne, que les gens apprennent à travailler ensemble et apprennent à travailler différemment, que les services se croisent et que de plus en plus, les projets se mènent avec les personnes, c'est-à-dire pour leurs compétences avant tout et moins pour le service qu'ils représentent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et on a la chance cette année de mener une évaluation, donc on va vraiment voir avec les agents ce qu'il en est réellement, puisque alors il faut savoir qu'à la CAN, c'est un enjeu fort hein, pour la CAN, elle a mis beaucoup d'énergie, de moyens là-dessus, c'était un objectif très clairement affiché de l'agenda 21 interne, c'est-à-dire il y avait le volet exemplarité, se frotter en interne à cette question du développement durable avant d'aller sur le territoire, mais il y avait aussi mettre l'agent au cœur de la participation, donc comment on peut travailler véritablement avec l'ensemble des agents, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur service. Et puis, il y avait l'idée de, est-ce que cette démarche ne va pas nous aider à évoluer vers une autre forme de management, ne va pas contribuer à faire travailler les gens différemment. Et je crois, enfin, Véronique pourrait peut-être en témoigner aussi, je crois que on le mesure aujourd'hui, effectivement, ça a marché, et bon, on va l'évaluer de manière plus fine, mais c'est vraiment très intéressant, et enfin, moi, je suis très contente d'avoir cette expérience-là qui nous permet à l'IFRE de nous consolider sur cette question et de pouvoir dire aux collectivités territoriales, voyez aussi ce que peut générer ce type de démarche.
Alors, quand Cécile parlait de Véronique, c'était Véronique Prunotto qui est avec nous et qui... travaille sur la cellule Agenda 21, enfin dans la cellule Agenda 21 de la CAN.
Spécifiquement sur l'agenda 21.
Juste alors on va prendre le micro comme ça. Pour le compte-rendu, c'est
je
plus facile.
Je n'ai pas la voix qui porte en plus. Donc je voudrais juste ajouter une observation par rapport à ce qu'a dit Cécile, qui va dans son sens d'ailleurs. C'est qu'on remarque également que les agents impliqués dans la démarche Agenda 21 interne ont une approche plus globale de la collectivité et leur implication s'en trouve renforcée. Ils acquièrent également d'autres compétences que celles qui sont les leurs à la base. Donc voilà, c'est une expérience assez intéressante de ce point de vue.
C'est donc quelque part, mais on le vérifiera hein, à travers l'évaluation, le pari qu'on faisait au départ d'être dans une logique apprenante en interne pour tout le monde, avec de la formation, avec beaucoup d'échanges, etc., etc. Ça a l'air de se concrétiser vraiment, de se lire en tous les cas. Hein. D'autres demandes de prise de parole, de questions ? Marie ? Oui ? Attends le micro, va pas trop vite.
Sur ton rapport, hein, pas sur les interventions, donc, oui. Sinon j'aurais parlé avant.
Oui.
Bon, c'est une information toute fraîche puisque je l'ai eue hier après-midi pendant la réunion de la commission régionale des aides de l'ADEME. Le premier sujet hier, eh bien, c'était celui de la mise en place imminente, même je crois que c'est prêt pour le septembre, dans le cadre du cluster Ecohabitat, donc sur Poitiers, avec peut-être une antenne plus tard à La Rochelle, d'un pôle ressources sur les bâtiments à haute performance. Et un pôle ressources non pas destiné aux habitants, mais destiné à l'ensemble des professionnels, avec un très gros financement de l'ADEME et de la région, qui s'engagerait pour plusieurs années. C'est pas, le financement est acquis pour cette année, mais sur plusieurs années. Donc je crois que c'est intéressant de s'en rapprocher de cette nouvelle structure.
Ah oui, oui. J'avais pas l'info. Merci. Pas d'autres remarques ? Gilles.
Il se décomposera en quatre.
Bien.
Non, ce que je voulais dire, c'est que faut qu'on soit bien conscient que le développement durable, c'est quand même une remise en cause sur le fond d'un système économique. Et donc, ce n'est pas facile à manœuvrer et à faire évoluer. J'ai ce premier point. Le deuxième point que je voulais insister, c'est que c'est aussi une nouvelle forme de réflexion. Parce qu'on était sur le système de Descartes, pour aller plus vite, on divise les problèmes, ils sont plus faciles à résoudre. Là, on revient à travers la transversalité, à faire en sorte qu'on ne se limite pas à son petit domaine, mais qu'on va voir un petit peu à côté comment ça se passe. Et ce n'est pas évident, parce que là aussi, on est formaté. Et donc, le troisième point, c'est que je pense qu'on peut faire exprimer tout le monde, mais que ça met du temps, et que je pense à la population en précarité, entre autres. Il faut trouver des moyens de leur sortir leur, ce qu'ils vivent, non, et pas seulement sous l'aspect négatif. Et il y a des points de ce qu'ils vivent qui rejoignent le développement durable. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas de sous pour payer, on peut être amené à faire des efforts pour l'économie. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut vivre mieux, des fois, avec moins. Et on le voit bien dans l'alimentaire où 30% part à la poubelle. Et ça part à la poubelle dans tout type de population. C'est pas réservé à une population riche qui peut se permettre, etc. Non, c'est bien au-delà. Et donc tout ça, ça va demander beaucoup de temps. Donc il faut en tenir compte aussi.
Non, c'est clair que la question du gaspillage alimentaire est un axe de travail aussi extrêmement important. On le voit beaucoup au niveau national. La question de la santé aussi. Il faut qu'on, enfin, probablement qu'on se positionne à l'IFRE sur ces questions. Pas d'autres remarques ? Je vous propose qu'on passe au projet 2013 que vous avez aussi dans votre pochette, mais je vais aller très très vite parce qu'on en a déjà parlé. Enfin voilà, c'est, je le redis, hein, la complexité à chaque fois de nos assemblées générales qui tombent en milieu d'année. Vous avez les cinq axes, hein, qui sont présentés à la page 2 et 3. Peut-être, s'il y avait besoin de marquer des points plus particulièrement, je reprendrai ce que disait Michel sur l'axe formation, hein, avec cette proposition que nous sommes en train de travailler et de mettre en place d'une construction en matière de formation qui permette vraiment de bâtir un parcours pour des stagiaires au sein des différents modules que nous allons mettre en place. Avec un élément important, c'est que nous visons une logique de certification derrière ce parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une offre de stage qui répond à un réel besoin en matière d'apport de compétences pour les stagiaires, pour les personnes qui viennent dans le stage. Là, nous allons dans une logique de certification, donc avec production au bout du compte, suite à une évaluation, hein, avec un contrôle quelque part d'apport de compétences nouvelles à une sorte de diplôme professionnel, certes, qui ne sera pas un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture ou de jeunesse et sport ou du social, qui sera donc malgré tout une certification professionnelle qui aura valeur dans notamment les conventions collectives ou les dispositifs de reconnaissance par ailleurs. Sur le volet accompagnement des démarches de développement durable, je soulignerai juste un point qui me semble là aussi extrêmement important, c'est le fait que, à travers notre travail avec une structure qui s'appelle Etxarri, dans le Pays Basque, qui est très connue dans le social et dans le monde agricole d'ailleurs, donc nous sommes en partenariat justement sur l'accompagnement, Cécile en parlait tout à l'heure, du travail que nous faisons sur le département de la Gironde, mais du coup nous rentrons dans le pôle d'experts. Alors c'est Cécile et Damien qui nous a rejoint au mois de mars dans l'équipe. Donc Cécile et Damien qui vont faire ce travail. Donc dans le pôle d'experts, d'instruction, des appels à reconnaissance du ministère de l'écologie sur les agendas 21 territoriaux. Donc il y a, je crois, 16 dossiers à traiter cet été par Damien et Cécile pour pouvoir faire ce travail. Donc c'est une belle reconnaissance, hein, faire partie du pôle d'experts au niveau national pour l'appel à reconnaissance. C'est quelque chose qui nous fait bien plaisir, au-delà du travail que ça peut représenter. Le livret numéro 5 sur l'axe production de ressources pédagogiques, j'en parle pas puisqu'on va en parler tout à l'heure, ou tout au moins on va être dans une première approche de ces questions de l'ETIC et de l'éducation à l'environnement. Mais donc sachez que pour la fin de cette année, ce sera le cinquième livret. Ça a été discuté, étudié en conseil d'administration de façon très, très intéressante, puisqu'on avait d'autres propositions faites par l'équipe, et c'est celle-là qui a été retenue. L'axe recherche, on en a déjà beaucoup parlé. Sachez qu'il y aura un symposium, puisque ça s'appelle comme ça dans le monde autorisé de la recherche, un symposium cet automne regroupant, allez, on va dire une quinzaine de chercheurs en France pour nous aider et nous aider collectivement, hein, pas seulement l'IFRE, à y voir plus clair et à savoir quelles orientations prendre sur cette question de la recherche au niveau national et plus particulièrement à l'IFRE. Et puis sur le dernier axe, eh ben le travail qui continue donc avec l'ADEME autour d'une méthodologie, d'un classeur ressources pour l'accompagnement des territoires sur la question notamment des énergies renouvelables et de ce que ça suppose en termes de, alors quelque part de développement économique bien sûr, mais surtout nous ce qui nous intéresse sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les territoires, pour le dire vite. Et puis je le redis, un séminaire aussi cet automne avec l'ADREAL, enfin piloté par l'ADREAL avec la Direct et la région sur le thème de l'économie verte dans la continuité et la suite et la valorisation d'études qui ont été faites et commanditées par l'ADREAL sur les filières de développement en région autour de cette question de l'économie verte. Voilà, vous avez en toute fin de ce document le budget prévisionnel qui a été validé par le conseil d'administration, bien sûr, et qui reprend les éléments financiers. Éléments financiers que nous allons pouvoir voir tout de suite après. Mais, Président, il y a approbation, avant d'accueillir le point suivant, approbation du rapport d'activité, du projet d'action 2013 et du budget prévisionnel.
Avant de vous demander de voter donc pour cette approbation, je voulais moi faire part du très très grand plaisir que j'ai eu à vous écouter toutes les trois, Cécile, Marie et Annie, parce que je crois que vous avez renvoyé là. C'est très difficile de faire comprendre ce qu'est l'IFRE. Je regarde Laurence. C'est des discussions qu'on a souvent. C'est dans notre paysage qui touche à l'environnement, au développement durable, l'action de l'IFRE n'est pas toujours visible. Vous avez bien compris, elle est tellement liée à l'accompagnement des personnes. C'est assez difficile à médiatiser. Et Laurence, par exemple, des fois témoigne du mal qu'elle a. Hein. Puis il y a Isabelle qui est à ses côtés, à faire comprendre à des élus qui ne peuvent pas nous suivre par le menu en participant au bureau ou au CA. Voilà, l'IFRE a du mal à ce qu'on perçoive très, très concrètement l'importance de notre travail. Et vraiment, ce plaisir, au sens professionnel du mot, vos trois interventions renvoient complètement ce qu'est notre ambition, c'est-à-dire que vous pédalez beaucoup. Vous êtes sur le terrain, vous accompagnez concrètement des choses, donc vous faites avancer des choses concrètes. et en même temps, vous nous avez renvoyé ce matin une analyse de vos pratiques et plus que ça, une analyse de ce que vous percevez, des évolutions sur ce terrain-là. Et vous nous avez envoyé des choses très importantes. Je ne sais pas si chacun mesure que chacune d'entre vous a avancé des choses au regard de l'évolution de la société et la façon dont la société se saisit du développement durable, des problématiques de la participation, de la place des personnes, de leur reconnaissance dans la société, etc. Il y avait tout ça dans vos trois interventions. J'ai pris beaucoup de plaisir et je vous remercie parce que vous avez renvoyé ce qu'est l'IFRE. Voilà. C'était très bien, monsieur le directeur, votre aussi.
J'en doute pas.
Je note. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre le budget prévisionnel et le rapport d'activité qui a été présenté en amont? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Qu'est-ce que tu as, Marie? Tu ronchonnes? Bon. À ce stade de l'AG statutaire, moi, je souhaitais donner de manière officielle la parole à la région, même si Laurence a pu s'exprimer. Si tu veux bien venir nous rejoindre. Alors, l'État est bien présent dans la salle. On aurait pu avoir une prise de parole, mais qui n'a pas pu être préparée pour des raisons vraiment de gestion de temps. C'est ce que j'ai reçu comme mail hier. Donc, il n'y aura pas de prise de parole de l'État parce qu'elle n'a pas été préparée et on a eu un mot d'explication. Donc, que personne ne s'étonne du fait qu'il n'y ait que la région qui parle. L'État est bien toujours membre fondateur de l'IFRE et on est très heureux qu'il soit présent et représenté dans cette salle ce matin. Voilà. Laurence.
Merci de nous donner la parole. Moi, je vais être dans la continuité de ce que tu viens de dire, Michel, parce que tu disais que tu me regardais. Effectivement, moi, sur la présentation, je trouve que sur le rapport d'activité interroge sur beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur en quoi l'Assemblée générale de l'IFRE pourrait constituer un outil pédagogique auprès, alors je pense aux élus, mais je pense aussi aux différentes structures qui sont présentes dans la salle aujourd'hui et qui peuvent peut-être s'enrichir de choses qui sont faites dans les différents domaines et sur lesquelles elles ne sont pas au courant. Donc c'est vrai que ça renvoie beaucoup de choses. Moi, je me suis fait la réflexion, on a longtemps opposé l'environnement à l'économique. Et au travers de ce que vous disiez, quelque part, je me dis, finalement, il est aussi entré dans les esprits qu'on peut opposer l'écologie au social et qu'effectivement, on est bien loin des atteintes du développement durable, qui était bien de mettre en cohérence ces trois volets économiques, écologiques et sociaux. Et alors, je ne vous parle même pas du jour où, enfin, on découvrira qu'il y a le patrimoine aussi, normalement. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que cette transition écologique, enfin, j'aime bien cette notion parce que transition, on peut imaginer un glissement assez lent et qui s'adapte aussi. Enfin, moi, je mets tout ça dans la transition. Et alors, le problème, c'est que c'est peut-être finalement un petit peu trop lent. Je ne suis pas persuadée que la société, l'évolution de la société, nous permette de nous satisfaire de cette lenteur d'évolution dans les mentalités. Et donc, à ce titre, c'est vrai que moi, je défends toujours le fait que l'écologie est un levier de développement économique. J'oublie parfois de rajouter, c'est, je pense, aussi un levier de développement social. Et vraiment en lien avec les trois, parce qu'on parlait des problématiques alimentaires. Même quand on a peu d'argent, même quand on est en situation de précarité, je pense qu'il y a une éducation à faire pour amener les gens à avoir une meilleure alimentation, ce qui apporte une meilleure santé et économiquement un confort économique. Moi, c'était Annie, je crois, qui disait que les sorties nature doivent être aussi à la portée de tout le monde et offertes à tout le monde. Et souvent, c'est un loisir gratuit qui coûte moins cher que de changer son écran plat et qui amène un bien-être. Et je pense qu'en termes de précarité sociale, c'est un levier qu'on mobilise beaucoup trop peu. Et c'est vrai que moi, j'ai été très attentive à ce livret. Ça ne m'étonne pas qu'il ait du succès, parce que sur cette thématique-là, je pense qu'il y a vraiment une parole à porter. Et nous, en tout cas, au niveau de la, du Conseil régional, c'est une parole que l'on porte. On essaye systématiquement. C'est vrai qu'on a évoqué la conditionnalité éducative sur le volet éducation à l'environnement par rapport à la contractualisation. Vous savez qu'il y a des gros enjeux en ce moment de contractualisation. On recontractualise avec l'État, on recontractualise avec l'Europe. Le volet éducation a systématiquement été intégré partout. Et ça, c'est quelque chose auquel on est attaché et qu'on continuera à porter. Alors, c'est vrai que vous ne le voyez peut-être pas, mais moi, je sais que Michel, parfois, sur les différentes commissions aussi du Conseil régional, quand on étudie les dossiers qui sont présentés en session, c'est un volet aussi qu'on signifie. Rien que la semaine dernière, sur le bilan carbone de la région, on a fait un bilan carbone de nos activités sur la commission de l'éducation à l'environnement. On a fait rajouter le volet éducatif, le fait que ce bilan carbone soit aussi un outil d'éducation, puisque le fait de réfléchir sur ces pratiques et d'en calculer le bilan carbone est quelque chose qui sensibilise tout le monde. Et là, on est bien sur des pratiques utilisées comme outils pédagogiques. Même chose sur l'agriculture biologique. Hein. On sait qu'il y a souvent, les agriculteurs biologiques développent souvent aussi des pratiques éducatives et sont des relais de l'éducation, aussi bien sur l'alimentation que sur les pratiques agricoles. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on cherche à promouvoir et à porter systématiquement sur toutes nos politiques. On est toujours très attaché à la formation, bien sûr. L'IFRE, c'est l'intérêt aussi, c'est d'avoir de la formation tout au long de la vie. Souvent, quand on parle formation, on parle éducation nationale dans l'esprit des gens. Et c'est vrai qu'il y a cette mission qui est au cœur, hein, qui est de ne pas s'adresser que à l'éducation nationale, même si, bien évidemment, pour l'éducation nationale, c'est un outil important. Moi, j'ai rencontré le recteur avant-hier. Et on a remis en avant, hein, pour nous, le rôle central de l'IFRE, et notamment par rapport à la formation des enseignants. On ne se mêle pas de la formation des enseignants, ce n'est pas notre souci. Par contre, moi, j'ai pointé l'intérêt d'avoir des publics qui se confrontent et que les enseignants ne soient pas formés qu'entre eux, mais qui se confrontent aussi aux autres acteurs du territoire. Et ce qui en fait aussi, je pense, peut enrichir le discours porté par les enseignants. Et c'est aussi ce qui fait une particularité de l'IFRE, c'est bien de proposer des formations qui s'adressent à des acteurs diversifiés et non pas sectorisés. Donc voilà, la logique de transversalité, on la retrouve aussi dans cette approche-là. Et donc toujours grande satisfaction de participer à la vie de l'IFRE assez régulièrement, au travers des bureaux, des conseils d'administration, de l'Assemblée générale où on se retrouve tous les ans, de voir qu'on a une situation financière, on va y venir, qui pour l'instant pose pas de questions. Je vous laisse découvrir, poser les questions après à ceux qui vont me succéder. Mais vous assurez que la région, le Conseil régional Poitou-Charentes, apporte toujours une très grande attention au volet éducation à l'environnement. Et même si le rendez-vous est tardif, moi, je pense qu'il aura lieu. Et puis aussi beaucoup d'espoir sur l'année à venir.
C'est bien que tu te sentes porteuse de cette mission.
Oui, oui, non, mais enfin, je la porte depuis plusieurs mois, mais sans grand succès, c'est. Je dois.
9 mois.
Voilà. Ça va être un enfant qu'on aura attendu. Et donc c'est vrai que moi j'ai aussi, quand on a échangé sur les projets à venir, les nouvelles technologies, c'est aussi quelque chose qui interroge, hein, sur la visibilité et l'utilisation que l'IFRE en fait en tant que structure. Moi, c'était une question que j'avais soulevée aussi, et c'est vrai que l'occasion de ces travaux à venir va être aussi une manière de s'interroger par rapport à ça, sur comment on utilise les nouvelles technologies. Et comment on peut les utiliser, elles peuvent être à notre service pour peut-être créer des nouveaux outils. Donc voilà, une grande satisfaction et de voir une ouverture vers autre chose qui peut être aussi très intéressant.
Merci Laurence. Monsieur Boyer et Monsieur Sudre, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Je vais vous laisser avec notre directeur. Donc maintenant, chacun peut se saisir du document rapport financier. Voilà.
Merci. Voilà. Ah, il faut appuyer sur le bouton. Ah, pardon. Okay.
commentaire. Non, c'est pour mieux les voir.
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole, Monsieur le Directeur. Donc, je me présente, je m'appelle Didier Boyer, je suis expert comptable au sein du groupe Sorégor. Et donc, j'ai le grand honneur de remplacer Thierry de Vautour, qui, jusqu'à présent, faisait office de représenter le cabinet pour la présentation des comptes. Et donc, je l'en remercie. Voilà, j'ai eu l'occasion, au cours de mes premières expériences professionnelles, de travailler chez IFRE, du temps de l'IFRE ORE, hein, donc avant la fusion. Et donc, c'était un grand plaisir pour moi de revenir ici même, dans cette structure, pour vous accompagner. Voilà. Donc, je vais vous présenter les comptes annuels du 31 décembre 2012. Donc, il vous a été remis cette plaquette sur un fond jaune pâle. Rapport financier année 2012. Vous trouverez dans ce document donc un bilan, hein, qui se présente par un actif et un passif, le compte de résultat avec un détail un peu plus analytique. À la page 5, vous trouverez une annexe comptable donc, qui précise les règles et méthodes adoptées dans l'association pour la présentation des comptes avec des faits marquants. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis les soldes intermédiaires de gestion, qui est une forme un peu plus facile à présenter, de présentation justement du compte de résultat. Donc je reviendrai dessus. Tout de suite d'ailleurs. Voilà. Alors, donc les soldes intermédiaires de gestion présentent le résultat de l'année 2012 écoulée, hein, donc du 1er janvier au 31 décembre 2012. Parmi donc, les produits de fonctionnement ressortent à 711 000 euros contre 767 000 euros en 2011. Pardon, hein. Donc cette baisse des produits de fonctionnement s'explique d'une part par une baisse des prestations de formation et d'accompagnement, hein, qui représente un montant total de 115 000 euros en valeur, soit une baisse de 33 000 euros par rapport à l'année passée. Donc il faut rappeler qu'en 2011, il y avait eu le module Expo Naturalibu sur la biodiversité, et donc cette action n'a pas été reconduite sur 2012. Donc ce qu'on appelle donc les services usagers financés par les usagers, c'est donc effectivement les prestations de formation et d'accompagnement, donc qui sont hors conventionnement, auprès des partenaires. Ensuite, nous trouvons dans les 711 000 euros donc les subventions, donc qui répondent à des conventions de subventions avec les partenaires, régions, États. J'en ai évidemment oublié. Donc elles ressortaient à 591 000 euros au 31-12, en 2012, donc à inclure dans les 711 000 euros contre 618 000 euros l'an passé. Donc la différence, c'est également une part de subvention liée au programme Naturalibus notamment, et la baisse de l'enveloppe en fonctionnement régional de 5%. Voilà, donc des baisses de produits de fonctionnement liés à l'activité de l'association de 56 000 euros en 2012, donc qui s'est accompagné d'une baisse des frais généraux, donc la partie consommation externe, de 30 000 euros. Donc on retrouve dans ce poste les consommations externes, donc toutes les prestations auprès des partenaires, donc en sous-traitance, hein, tout ce qu'on appelle les frais généraux, les frais de structure, téléphone, assurance, entretien, etc. Et donc la baisse s'explique principalement par la baisse de la prestation, enfin de prestations sous-traitées dans le cadre du programme Naturalibus, donc de 30 000 euros. Donc dans la baisse des produits de fonctionnement de 56 000 euros, il y a une part imputable de 30 000 euros dans la baisse des charges directes liées au programme Naturalibus. Donc Naturalibus, module Expo, diversité. Voilà. Bon, quelques commentaires sur le poste, donc impôts et taxes. Il y a deux rubriques. Donc, il s'agit de la formation continue et de la taxe sur les salaires. Donc, la baisse s'explique par la baisse du poste formation continue, puisque dans le cadre d'un changement dans l'affiliation à la formation continue, il y a eu une baisse de taux. Donc, l'association a bénéficié pour 2012 et pour l'avenir d'une baisse de la charge de formation continue. Les frais de personnel ressortent donc à 444 000 euros contre 445 927 euros. Donc c'est les salaires bruts plus les charges patronales. La baisse est plus importante en salaire puisque on a constaté une baisse de l'ordre de 7 000 euros avant charges patronales. De la masse salariale. Par contre, il se trouve qu'il y a eu une charge un peu exceptionnelle liée au départ d'un collaborateur qui a généré une charge sur l'exercice, qui fait que au final, le résultat, le poste frais de personnel est resté stable. Ça veut aussi dire que pour 2013, le poste devrait baisser compte tenu de la baisse de la masse salariale. Voilà. Donc l'EBE, qui est un indicateur de gestion, ressort à 8 000 euros contre 27 000 euros en 2011. Hein. Donc on est à l'équilibre. On est en baisse liée principalement à la baisse des prestations de formation et d'accompagnement qui ont permis de couvrir des charges fixes de l'association. Voilà. Le poste de dotation aux amortissements a diminué de 7 000 euros. Au final, on ressort donc avec un résultat de l'exercice de 3 000 euros contre 32 000 euros l'an passé, sachant qu'en 2011, il y a eu un résultat exceptionnel de 12 000 euros, dont 9 000 euros s'expliquaient par un remboursement du FEDER qui n'avait pas été provisionné dans les comptes 2010, pardon, et donc qui avait été comptabilisé en produit exceptionnel en 2011. Voilà. Donc un équilibre économique tout à fait validé. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'analyse de l'activité et du résultat de l'année 2012 ? Excédent brut d'exploitation. Donc c'est, comme je le disais, un indicateur d'exploitation. Très utilisé dans les entreprises, notamment pour les ventes d'actifs, les ventes d'entreprises, et qui en fait est la sommation des produits de fonctionnement, des produits d'exploitation et des charges d'exploitation avant amortissement, qui est une charge comptable et donc qui ne permet. On est vraiment sur un indicateur en rapport avec la trésorerie d'exploitation. Voilà. Non, pas de questions. Alors, je vais vous présenter le bilan, donc qui se compose d'une partie à l'actif, ce que l'association a, c'est son patrimoine, donc du matériel. Donc, on a des matériels pédagogiques, des logiciels, du mobilier principalement, hein, notamment le Naturalibus qui figure à l'actif du bilan. Hein, donc, ce matériel figure en valeur brute. En valeur d'achat, et dans la partie amortissement, c'est la mesure comptable de la dépréciation par l'usage du temps de chacune des immobilisations. D'accord ? Donc elle ressort en valeur nette, donc brute moins amortissement, à 24 000 euros contre 34 000 euros l'an passé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Donc c'est globalement l'outil utilisé par l'association pour mener à bien son objet et sa mission. Hein. Parmi les autres éléments d'actifs de l'association, donc, qui ont trait au patrimoine de l'association, il y avait donc des créances usagées, c'est-à-dire des factures de prestataires qui n'étaient pas encore réglées, donc c'est normal, elles ont été réglées en début d'année 2013. Hein. Elles ressortaient à 32 000 euros contre 35 000 euros l'an passé. Et donc, il y avait d'autres créances, 189 000 euros contre 128 000 euros. La variation la plus importante, c'est que le montant des subventions à recevoir, qui a augmenté de 70 000 euros. Hein. Donc, au moment du conventionnement, on comptabilise la totalité de la créance et au fur et à mesure de la réalisation de la prestation, cette créance est le produit est dégagé et au moment de l'encaissement, donc plus la mission est avancée, plus le montant du conventionnement, de la subvention, a des chances d'être réglé. Et donc, effectivement, il y avait des programmes en cours de conventionnement au 31 décembre 2012 qui n'étaient pas réglés en compte tenu de la réalisation de la prestation. Voilà. Donc c'est principalement cette explication de la variation du poste 180 sur le poste autre créance. Pardon. La trésorerie demeurait positive, en légère baisse, notamment liée au montant des subventions à recevoir, hein, qui était plus important qu'en 2011. Elle ressort à 211 000 euros, ce qui représente à peu près 3 mois de produits de fonctionnement de l'association, ce qui est un niveau tout à fait correct, sans pour autant être important, ce qui veut dire qu'il faut gérer quand même les échéances avec des variations, j'allais dire saisonnières, entre des sorties d'argent au moment notamment du paiement des charges sociales et les rentrées d'argent. Donc il faut effectivement gérer, mais on a quand même un niveau de trésorerie qui est correct, qui est tout à fait satisfaisant. Voilà. Au total, actifs, 461 000 euros contre 433 000 euros l'an passé. Voilà. Donc, en comptabilité, il y a une règle simple, c'est qu'à un actif, il y a un passif. Donc le montant du total actif, on le retrouve au passif. Donc le passif, c'est ce que l'association doit. Donc on trouve parmi les dettes 110 000 euros de dettes fournisseurs. Donc c'est-à-dire c'était des factures ou des provisions qui étaient reçues et comptabilisées au 31 décembre mais qui n'étaient pas réglées, hein, ainsi que des provisions liées à l'abonnement en charge ou à des factures qui ont été reçues postérieurement et qui étaient afférentes à l'exercice 2012. Parmi les provisions, je rappelle qu'il y a, ça figure parmi les faits marquants de l'annexe en page 6 du dossier financier. Je rappelle que donc il demeure pour 45 000 euros en totalité donc des remboursements à payer, des remboursements à payer par l'association de frais de mise à disposition d'un professeur, et ça date de 2002 et de 2003, hein. Donc il y a 45 000 euros dans les 110 000 euros de dettes fournisseurs et assimilées, 45 000 euros de prestations de mise à disposition par le ministère de l'Éducation nationale et qui n'ont pas été appelées. Les dettes fiscales et sociales étaient en baisse. Il s'agit principalement des salaires du mois qui auraient été réglés au tout début du mois suivant, les dettes d'URSSAF, de retraite, de prévoyance, voilà, donc c'est les bordereaux sont comptabilisés et payés au cours du mois suivant, voilà, donc la baisse, alors attendez, je reprends mes notes, la baisse de ce poste s'expliquait par, je vérifie, oui, il y avait une subvention à recevoir pour 13 000 euros, à rembourser du fait de la réalisation de l'action au réel, qui a été réglée au cours de l'exercice, mais qui n'apparaît pas au 31 décembre 2012, puisque cette dette a été régularisée. Voilà. Donc c'est principalement la variation. Voilà. Le poste le plus significatif qui apparaît, c'est ensuite ce qu'on appelle les produits constatés d'avance. Donc ça, c'est pas vraiment une dette, c'est la mesure de l'avancement, entre guillemets, ou du moins des travaux restant à réaliser sur l'ensemble des programmes de conventionnement, donc de subvention. Hein. Dès lors qu'une subvention n'est pas totalement consommée, et qu'elle est à cheval sur plusieurs exercices, elle est répartie au travers le poste produit constaté d'avance sur l'exercice suivant, et donc portée dans ce compte. Voilà. La différence entre les actifs donc 461 000 euros et les dettes 220 000 euros, c'est ce qui représente les fonds associatifs, 240 000 euros. Donc c'est en fait l'ensemble des subventions reçues par l'association qui n'avaient pas le caractère de renouvelable par rapport au financement de l'investissement concerné. Et donc elles ont été portées en fonds associatifs. Hein. Et l'ensemble des résultats ou pertes des années passées, au final, il ressort des fonds associatifs, des fonds propres positifs de 240 000 euros, hein, ce qui veut, à comparer avec la situation de trésorerie présentée tout à l'heure de 211 000 euros, donc on a un équilibre financier tout à fait satisfaisant de l'association. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Alors je vais juste reprendre les termes de l'annexe comptable, donc qui précise à partir de la page 5 les règles et méthodes comptables utilisées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, elles ont été analysées par le commissaire aux comptes qui vous donnera son opinion tout à l'heure. Elles sont constantes, il n'y a pas eu de changement de méthode. Juste, je voulais attirer votre attention sur les faits marquants qui figurent à la page 6. Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la page 6. Pardon. Oui. Donc, comme chaque année, on relate des informations importantes, selon nous, les contributions volontaires en nature sont en fait des mises à disposition de personnel qui ne sont pas retracées en comptabilité puisqu'elles ne sont pas facturées. Hein. Donc, depuis septembre 2006, le rectorat de l'Académie de Poitiers a ouvert un service éducatif au sein de l'IFRE à raison de 3 heures hebdomadaires réalisées par un professeur. Ce service a été opérationnel sur l'exercice 2012 et elle est valorisée à hauteur de 5 000 euros sur l'exercice. Voilà. Donc ça n'apparaît ni en produit ni en charge, mais c'est une information importante dans le cadre du fonctionnement de l'association. Les factures non parvenues, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste dire donc qu'au 31 décembre, l'effectif ressortait à 10 personnes qui sont en contrat à durée indéterminée et contre 11 au 31 décembre 2011. Voilà. Et page 7, il y a des informations sur le calcul de ce qu'on appelle, nous, l'engagement de retraite, c'est-à-dire c'est la valeur actualisée des annuités de carrière si l'ensemble du personnel présent au 31 décembre, compte tenu de son salaire, donc de son été théorique, de son âge, de son ancienneté, venait à prendre sa retraite. Voilà, donc c'est une valeur actuaire de cet engagement, qui est une information importante quand même, qui représente 26 000 euros. Voilà. Donc c'est une somme qui n'est pas portée au passif du bilan, c'est juste une information portée en annexe, mais information qui nous semble importante. Voilà. Pour le reste, j'ai pas de commentaires particuliers sur les autres informations qui sont portées à l'annexe et qui me paraissent moins importantes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
On va passer à Monsieur Sunre.
Bonjour. Jean-Philippe Sunre, cabinet Duo Solutions Audit, commissaire aux comptes de l'IFRE. Je remplace Jean-Paul Dorenlot, que vous avez sans doute plus l'habitude de voir au sein de cette Assemblée générale. Donc, notre rapport, je vais vous épargner la lecture intégrale de la partie normée du rapport qui ne présente pas un intérêt considérable. Je vais simplement vous lire l'opinion sur les comptes annuels que nous exprimons. C'est quand même le principal. Donc, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Un petit mot quand même sur la justification des appréciations. Nos travaux ont porté plus particulièrement cette année sur la correcte transcription comptable des mouvements personnels intervenus au cours de l'exercice et sur les procédures mises en place au sein de votre association et qui concourent à la production de l'information financière. Voilà, donc tout ça, en clair, nous permet de conclure à une gestion effectivement très saine et à des équilibres financiers tout à fait sains pour votre association. J'en profite pour remercier Madame Lamotte, donc responsable administrative, qui nous accueille depuis maintenant pas mal d'années, avec qui on travaille en parfaite collaboration. Et puis j'en profite pour remercier également le cabinet Sorégor et principalement Monsieur Boyer pour son assistance dans notre mission. Un petit mot quand même également de notre rapport spécial, donc qui porte sur les conventions réglementées entre votre association et certains de ses administrateurs. Là encore, je ne vais pas vous faire la lecture intégrale du rapport. Vous en avez la reproduction à partir de la page 19 du livret, avec un tableau récapitulatif des conventions réglementées de l'exercice 2012. Je vais simplement vous donner lecture des deux principaux montants financiers concernés. Ils concernent le Conseil régional Poitou-Charentes, qui est membre fondateur actif de votre association. Et donc les deux principales conventions concernent la convention de fonctionnement général pour un montant de 228 000 euros. Et la deuxième convention est celle qui est liée au financement du programme des actions 2012, qui s'est élevé à 219 000 euros et qui, au vu des réalisations de l'année, a été ramené à 217 919 euros. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Pas de questions ? Daniel, tu veux ajouter quelque chose ? C'est parfait, ça te convient ? Bon, très bien.
Si c'est parfait, très bien.
Merci.
Merci. Ben, merci à vous, messieurs. On va passer au vote, comme on dit dans les Vosges, ou dans le Jura, je ne sais plus.
Bien, donc on a trois approbations. J'ajoute mes remerciements à Daniel pour l'efficacité de son travail et sa gentillesse et sa disponibilité. Ce serait bien si vous aviez quelque chose à dire sur le plan comptable. Oui, pour l'année prochaine, ce serait bien, ce sera ma dernière AG. À chaque fois, je vous tends la parole, à chaque AG, vous ne voulez rien dire, ce n'est pas bien. Donc, c'est un engagement pour l'année prochaine. Bien, tout le monde note. Alors, est-ce que quelqu'un s'abstient sur les comptes qui vous ont été présentés ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Donc, merci. Sur le rapport du commissaire aux comptes, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Merci. Sur le rapport des conventions réglementées du commissaire aux comptes, qui est pour ? C'est pour voir si vous écoutez. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bien, merci beaucoup. Tu n'avais pas aucun camembert à présenter ?
Non,
ou non,
c'est dans le document.
C'est dans le document. Si vous le souhaitez, c'est toujours important pour des structures comme les nôtres que vous puissiez avoir une vision très simple de la répartition des financeurs par rapport à nos activités. Donc c'est à la fin du document ou quelle page ? C'est page.
C'est pas tout à fait à la fin, c'est à la fin du.
Non, à la fin des. Voilà,
de c'est résultats.
À la page 14, voilà. vous avez un camembert qui, d'une manière très simple, bien, vous montre la part très importante de la région. On en a parlé deux, trois fois, c'est important de le dire. Et c'est bien ce qui fait que on est bien dans des missions de service public et d'intérêt général. Donc vous voyez, 19% sont essentiellement des collectivités, 16% l'État, et 22% l'État, 16% divers. Mais dans ces 16%, on est avec une majorité d'argent public.
Oui,
c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des 100% du budget avec de l'argent public. Voilà, ce camembert, il est très simple, mais il permet rapidement d'avoir un œil sur nos financements. Bien, on approche la fin de notre trajet statutaire. Monsieur Boyer vous a dit donc jusqu'à présent, c'était Monsieur de Vautour qui traitait et suivait l'IFRE. Donc à l'intérieur du cabinet de la Sorégor, donc il y a eu des mouvements. Donc Monsieur de Vautour ne traite plus directement le dossier de l'IFRE. Je pense qu'il le traitera plus. Donc on a voulu vous remercier. Vous allez voir, c'est très symbolique. On a voulu vous remercier pour la qualité du travail professionnel. C'est la moindre des choses, bien sûr. Moi, je veux y ajouter que sur le plan humain, ça a été un véritable plaisir de travailler avec vous, que vous ne vous êtes pas contenté de faire un travail à la calculette et qu'on a bénéficié de vos conseils. Et puis, le bénéfice des conseils ont été accompagnés d'une qualité relationnelle très, très agréable et très enrichissante. Donc, au nom de toute l'équipe et du conseil d'administration, je vous remets ce cadeau. Voilà. Alors, vous l'ouvrirez plus tard. Je vais quand même expliquer. Oui. Ah ben oui, je vais vous donner le micro. Hein, en essayant de maîtriser quand même vos paroles, parce que des fois, ça part très vite et tout en bureau.
J'ai mis le bazar.
Pas du tout. C'était très agréable. Alors, c'était difficile de trouver un cadeau qui soit au croisement de la comptabilité et de l'environnement et du développement durable. Hein. On a parlé des croisements, le social, et l'écologique, l'écologie et l'économie, etc. Donc, vous allez trouver à l'intérieur de ce paquet une calculette. Ouais, c'est une originalité achevée pour un expert comptable. Et cette calculette a deux particularités. La première, c'est que les touches sont vertes, ce qui est un lien évident avec la dimension environnementale. Mais plus original, c'est qu'elle fonctionne à l'eau.
À l'eau.
Ah, voilà. Donc, voilà, le croisement entre la comptabilité et l'environnemental.
Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous me permettez de dire deux mots?
Évidemment, pour
vous remercier et l'ensemble des équipes de l'IFRE, que ce soit les élus, membres du conseil d'administration ou les agents. Je montre rarement mes émotions, mais sachez que je suis sensible, enfin, très sensible à vos attentions. Je voulais vous dire... d'abord, je reste très attaché à l'IFRE. Hein, j'ai d'autres casquettes que celles d'expert comptable qui font que je suis toujours très, très intéressé et très proche de ce que vous faites. Je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup appris à l'IFRE. Pas seulement sur le sujet qui est votre action et... votre activité telle qu'elle nous a été décrite, même si sur ce sujet, j'avais beaucoup à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je chemine tranquillement, trop lentement sûrement, mais je chemine tranquillement sur ces sujets dans lesquels l'humain est évidemment au cœur de l'ensemble des actions, et vous venez de le rappeler. Mais je veux dire aussi que l'IFRE m'a beaucoup appris sur le fonctionnement associatif. Alors, c'est peut-être plus étonnant, mais je tiens à le dire aussi parce que vous avez au moins trois caractéristiques qui sont le fait que vous êtes toujours en réflexion, en une interrogation sur vos missions, votre utilité, votre raison d'être, en interrogation et en même temps en conviction, hein, sur voilà ce que nous faisons, voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous avons été créés et fondés, et voilà pourquoi est-ce que nous défendons ardemment des positions, des principes. Le deuxième élément qui fait votre caractéristique, c'est que ces missions, vous les interpellez toujours par rapport à, enfin, vous remettez toujours en question le système, l'organisation, le modèle qui vous permet d'assurer ces missions, et pas seulement le modèle économique, le modèle humain, le modèle social, le modèle sociétal. Vous avez vécu des modifications, y compris dans vos statuts, qui font que vous êtes toujours en train de regarder la façon dont vous avez à exercer ces missions et dont vous pouvez les exercer avec l'ensemble des dimensions que vous savez si bien appréhender et dans lesquelles vous mettez évidemment le modèle économique. Et puis, le troisième point, c'est que vous affirmez toujours très haut, très fort, et avec quelles compétences, mais d'autres évidemment le savent le faire aussi avec vous, que la parole d'une association d'experts, d'une association qui a de l'expertise, sera toujours plus forte qu'un discours institutionnel. Et que c'est utile, c'est important, dans nos territoires, d'avoir des structures qui sont indépendantes des pouvoirs politiques, même si elles sont évidemment financées de façon importante par les collectivités, qui sont indépendantes et qui savent fédérer et regrouper des expertises. Je sais que d'autres associations portent, hein, je regarde Franck là-bas qui aussi est sur cette logique-là de dire que le discours est plus fort et plus fiable et plus clair et plus crédible quand il est porté par des structures associatives qui savent fédérer plutôt que par des discours institutionnels. Voilà. À certains moments, on peut penser, quand on entend parler d'internalisation, il faut peut-être aussi rappeler ces principes-là. Et vous savez, les rappeler avec beaucoup d'indépendance d'esprit, tel que vous l'avez montré tout à l'heure. Voilà, et donc, je resterai présent. Enfin, si vous m'invitez, je reviendrai. Voilà. Et en tout cas, je m'applique à moi-même ce que vous avez dit tout à l'heure en début de votre propos, qui est le fait qu'il faut changer les femmes et les hommes pour aérer les structures. Voilà. Et donc, il n'y a pas qu'en politique qu'il faut faire ça. Il y a aussi dans les entreprises, parce que ça permet à des nouveaux talents de surgir. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Cet AG statutaire est terminé avec l'information qui est affichée à l'écran que on a en 2012, puisqu'on est bien sûr toujours dans le statutaire, deux nouveaux membres, la ville d'Angoulême et la ville de la Couronne, voilà, qui ont rejoint l'IFRE dans le collège des adhérents. Voilà, Francis, je suppose que Annie va venir
oui.
Nous rejoindre. Je ne sais pas où elle est. Elle est toujours à quatre pattes là-bas.
On vous a affiché les membres actuels. Effectivement, on va faire une petite pause technique d'installation et puis tout ça, mais c'est vraiment, trois minutes, pas plus, pour démarrer notre table ronde. D'autant plus qu'on a un moment en visioconférence. Donc, j'imagine que notre intervenant à distance doit être dans les starting blocks. Et comme on a un peu de retard, un peu.